François-Xavier Verschave, on parle là du Togo, il y a un éclairage en ce moment sur le Togo, et encore, enfin, c'est une lampe de poche un peu, ça va pas durer très longtemps, à la suite de la mort de Yadema, mais parlez-nous des autres pays qui sont dans des situations analogues dans la France-Afrique, dans le précaré français.
Mais il y en a plus d'une douzaine. Alors, pour ne pas être totalement pessimiste, on peut observer que dans 4 ou 5 pays, depuis une dizaine d'années, les peuples ont conquis le droit de choisir leurs dirigeants contre la France. Ça a été le cas du Mali, contre Moussa Traoré. Ça a été le cas du Niger, contre le dictateur Focartien, le général Baremaï Nassara. Ça a été le cas de Madagascar, où le peuple, après une lutte de 6 mois, a réussi à évincer le dictateur Didier Ratsirak. Ça a été le cas aussi, d'une certaine manière, du Sénégal, où on avait un pouvoir ultra corrompu, y compris par la fraude électorale, qui a été renversé par un mouvement civique assez exceptionnel en 2000. Donc il y a le Bénin aussi, où le dictateur a été renversé, même si le cas du Bénin est un peu plus compliqué. Donc ce n'est le maintien du système dictatorial france-africain n'est pas universel, mais il y a une douzaine d'autres pays au moins où c'est encore le cas. Il y a Djibouti, dont on a parlé récemment avec l'affaire Borrell et Monsieur Omar Guelleh. Il y a les 3 chefs d'État qui m'ont attaqué pour offense à chef d'État et qui ont perdu, Omar Bongo, Idriss Déby au Tchad, le Congolais Denis Sassou Nguesso. Il y a l'éternel vacancier Paul Biya qui règne sur le Cameroun sans jamais réunir un conseil des ministres. Il y a le Mauritanien, Oultaya, et puis on s'aperçoit qu'un pays comme l'Algérie, qui a conquis son indépendance, est maintenant sous la coupe d'officiers, de généraux qui ont fait leur classe dans l'armée française, et que la France-Afrique a tellement conquis l'Algérie qu'un ouvrage récent et célèbre a pu être publié sous le nom de la France-Algérie. Bon, j'en oublie encore.
La Côte d'Ivoire, parlez-nous de la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire, c'est un cas un peu différent, parce que il y a eu des élections. Ces élections ont été tronquées puisqu'on a évincé 2 candidats. Mais on peut pas parler, à proprement parler, de dictature. Disons que on a là en Côte d'Ivoire une autre tare qui a été cultivée par la colonisation française et puis dans la période postcoloniale, c'est l'instrumentalisation de l'ethnisme. Pour continuer à régner dans de nombreux pays, suivant en cela les conseils de l'IOT, les officiers de l'armée française ont entretenu, y compris par la manipulation psychologique, la guerre entre les ethnies, en disant mais si il faut que tel dictateur reste au pouvoir parce que sinon les autres vont venir massacrer, etc. Donc cet antagonisme ethnique dont on peut montrer cas par cas dans chaque pays qu'il est très largement manipulé, qu'il est exacerbé, qui va bien au-delà des fondements réels de la vie quotidienne.
Et on sait à quoi ça mène avec le Rwanda, par exemple.
Tout à fait. Eh bien, bien sûr, des démagogues africains peuvent s'en emparer, et c'est ce qui se passe un peu en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, je dirais, c'est un autre cas de la France-Afrique, où Fouette était également l'image, la meilleure image de ce système. C'était le bras droit de Focar en Afrique, son correspondant privilégié. Il gouvernait, ivoirien, avec 30 ou 40 conseillers français blancs, sans un seul africain autour de lui. Et il a, malgré son image de papa gâteau, largement réprimé l'opposition et conduit son pays aussi à une ruine économique à travers les immenses détournements de l'argent, du cacao ou d'autres richesses. Donc, on est, dans le cas de la Côte d'Ivoire, dans ce qui advient après 40 ans de France-Afrique. Comment un pays peut être dans un état de délabrement économique et surtout politique ?